tous. Le feu progresse moins vite, mais le combat continue. Dans l'Aude, 16 000 hectares partis en fumée, du jamais vu en France. Depuis plus de 75 ans, une légère amélioration ce midi. Nous serons sur place. Vladimir Poutine et Donald Trump, bientôt dans la même pièce, pour parler de la guerre en Ukraine. Le président ukrainien, lui, en revanche, n'est pas convié. Donald Trump qui se réjouit car les droits de douane américains sont entrés en vigueur. Aujourd'hui, un coup dur pour les dizaines d'économies concernées et le président américain n'en reste pas là. Il s'attaque désormais aux puces et semi-conducteurs importés, mais vous allez le voir, tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne. Et puis l'avenir de la loi Duplomb suspendue au verdict du Conseil constitutionnel. Une loi conforme ou non à la Constitution. Réponse en fin de journée. Les pompiers espèrent fixer le feu dans la journée. Dans l'Aude, la situation s'améliore légèrement, le vent est moins violent et l'incendie progresse moins vite. Mais les pompiers sont toujours en train de lutter contre les flammes. C'est l'incendie le plus important qu'a connu la France depuis 1949, assure le gouvernement. Il a déjà traversé 15 communes du massif des Corbières, brûlé 36 maisons. Une femme de 65 ans est décédée et deux personnes sont toujours en urgence absolue. Boris Lomagne, vous êtes sur place et vous avez pu embarquer avec les pompiers.
Oui, effectivement, les pompiers ont tenu à nous montrer deux points qu'ils jugent essentiels pour l'avenir de cet incendie. Le premier point, c'est celui où nous nous trouvons encore sur la commune de Thézan-les-Corbières. C'est un point où l'incendie progresse encore et les pompiers veulent nous dire que cet incendie n'est pas encore fixé, même si c'est l'objectif du jour, on le sait. Mais là, face à nous, nous avons une colline avec des pins maritimes, des pins d'Alep qui sont en flammes. À 500 mètres de nous, alors nous sommes protégés par une barrière naturelle ou une barrière agricole qui sont des rangées de vignes qui nous protègent de cet incendie, mais nous pouvons très clairement constater que sur cette colline, eh bien, les pins sont en flammes. Le vent, d'ailleurs, vient de se lever depuis environ une heure. On a quand même des bourrasques de plus en plus intenses et à mesure que ces bourrasques apparaissent, eh bien, les flammes grandissent face à nous. Alors, on voit le balai des hélicoptères, des canadaires qui viennent d'attaquer, comme disent les pompiers, cette colline. Mais le vent qui s'est levé, de nouveau, a fait monter les flammes en quelques secondes. Et là, face à nous, nous avons un brasier de plus en plus impressionnant. Alors, des pompiers sont disséminés tout au long de cette colline pour tenter de freiner cette progression. On a pu voir des hommes avec des lances à incendie progresser dans la garrigue qui est touffue, compliquée d'accès. Les pompiers ont voulu nous dire que, effectivement, prudence, le vent est toujours là, la sécheresse est toujours là, la chaleur également. Et ce feu continue, à l'heure où on se parle, de progresser. On est encore loin d'un feu totalement fixé.
Boris Lomagne pour France Culture avec Martin Troadec à la technique. Vous l'entendiez, des pompiers toujours face aux flammes ce midi. Ils sont plus de 2000 sur place, aidés par la quasi-totalité des moyens aériens disponibles au niveau national et des renforts venus de tout le pays. Un incendie géant qui s'étire sur 90 km de lisière. Difficile à stopper pour les pompiers, notamment parce qu'il manque d'eau. Et justement, la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, s'est dit ce matin favorable aux retenues collinaires, une mesure pour stocker de l'eau déjà demandée par une partie des agriculteurs. Raphaël Ben Abdelmoumen, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que ça veut dire alors ces retenues collinaires ?
Eh bien, ce sont de grands réservoirs à ciel ouvert, une sorte de lac artificiel rempli naturellement par la pluie et les eaux de ruissellement. On ne pompe pas donc directement dans les nappes phréatiques, comme c'est le cas pour les controversées méga-bassines. Dans l'Aude, comme ailleurs en France, une partie des agriculteurs réclament ces retenues collinaires de longue date pour leur culture et donc aussi pour les pompiers qui pourraient s'en servir pour ravitailler rapidement leurs camions en eau en cas de gros incendie. Le problème, c'est que la plupart des régions touchées par les feux de forêt souffrent aussi de la sécheresse en été. Alors, est-ce que ces plans d'eau se rempliraient vraiment ? Oui, selon l'hydrologue à l'INRAE, Vasken Andreas.
Ce sont des zones qui sont à la fois caractérisées par une forte sécheresse d'été, mais aussi par des pluies parfois très importantes à l'automne, en hiver et au printemps. Donc, ce ne sont pas des endroits où il n'y a pas d'eau. Donc, à condition qu'on soit capable d'identifier des endroits où la construction de retenues collinaires est possible, on peut stocker de l'eau. Mais on n'est jamais à l'abri également d'une sécheresse exceptionnelle qui empêcherait une année de remplir ses réserves collinaires.
C'est le cas par exemple dans les Pyrénées-Orientales, le département voisin de l'Aude, touché depuis 2 ans et demi par une sécheresse inédite. Dans ce genre de cas, ces réservoirs de secours pourraient eux aussi se retrouver à sec.
Les explications de Raphaël Ben Abdelmoumen. Et sachez que sur l'origine de cet incendie, selon la gendarmerie, le feu a démarré a priori au bord d'une route. Une enquête est toujours en cours. L'insécurité qui frappe les maires est une réalité insupportable. Réaction du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau après l'agression du maire de Villeneuve-de-Marc en Isère. L'élu de 65 ans a été violemment agressé hier alors qu'il se baladait avec son fils dans les rues de sa commune. Touché à la poitrine par un objet qui n'a pas encore été déterminé. Le suspect est toujours en fuite, mais il a été identifié. Et selon les premiers éléments de l'enquête, un conflit d'urbanisme l'opposait au maire depuis plusieurs années. Une rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine devrait avoir lieu dans les prochains jours. C'est le Kremlin qui l'annonce ce matin. Le Kremlin qui refuse en revanche une réunion à trois avec le président ukrainien. Les explications à Moscou, Jean-Didier Revoy.
C'est au terme de sa 5e visite à Moscou que Steve Witkoff est parvenu à ficeler un sommet entre Vladimir Poutine et Donald Trump, une rencontre que les deux hommes appelaient de leur vœu et qui intervient alors que les tensions entre la Russie et l'administration Trump n'ont jamais été aussi importantes. La perspective chère à Donald Trump de vouloir mettre un terme au conflit en menaçant les partenaires commerciaux de la Russie de sanctions a certainement fait avancer les choses, mais attention, cela ne veut pas dire que Moscou est prêt à mettre un terme au conflit qu'il oppose à Kiev. Vladimir Poutine l'a répété, il veut une paix durable qui prenne en compte la défense des intérêts de la Russie et garantissent sa sécurité. Moscou veut redéfinir une architecture de sécurité en Europe qui dépasse le cadre du conflit ukrainien. Et pour y parvenir, la Russie doit d'abord se mettre d'accord avec les États-Unis au moment où plusieurs responsables européens refusent de parler au président russe. On connaît les conditions de Moscou, reconnaissance de l'annexion des régions occupées par la Russie, un retrait des troupes ukrainiennes de ces régions et la non-entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. C'est à n'en pas douter ce qui constituera le gros des discussions entre les deux hommes.
Jean-Didier Revoy pour France Culture et de son côté Volodymyr Zelensky réitère son appel pour une rencontre en face-à-face avec Vladimir Poutine. Il est minuit, des milliards de dollars de droits de douane affluent maintenant vers les États-Unis d'Amérique. Voici le message posté par Donald Trump sur son réseau social Truth. Le président américain se réjouit parce qu'à partir d'aujourd'hui, les hausses de droits de douane entrent en vigueur pour plusieurs pays, plus 15% notamment pour l'Union européenne, le Japon ou encore la Corée du Sud. Et Donald Trump ne compte pas s'arrêter là. Il annonce de nouvelles taxes douanières, des taxes à 100% sur les puces et les semi-conducteurs. Tout le monde sera concerné, assure le président, sauf une entreprise taïwanaise. Justine Leblond, bonjour.
Bonjour.
C'est le géant taïwanais des semi-conducteurs TSMC qui sera en effet exempté.
Oui, il faut dire que TSMC, c'est le leader mondial des semi-conducteurs, ces puces électroniques indispensables pour les téléphones, les ordinateurs, les voitures et même les machines à laver. Avec plus de 500 clients dans le monde, c'est le fournisseur des géants de la tech, notamment Apple et Sony. Et étant donné qu'il est le principal exportateur de Taïwan et qu'il dispose d'usines aux États-Unis, eh bien, TSMC est exempté des droits de douane de 100% imposés par Trump. Ça, c'est la déclaration faite aujourd'hui par le directeur du Conseil national de développement taïwanais après l'annonce du président américain. Alors, tout ça s'inscrit dans un contexte. Ça fait plusieurs mois que Trump menaçait de mettre en place des droits de douane à 100%. Il accuse Taïwan de saboter, voire même de voler l'industrie américaine des semi-conducteurs. Pour se protéger, en mars, TSMC a annoncé investir 100 milliards de dollars aux États-Unis pour y construire des usines, de quoi apaiser le président américain. Cet investissement pourrait en revanche nuire à l'économie taïwanaise, car jusque-là, la concentration de la fabrication de puces à Taïwan était une sorte de bouclier pour l'archipel, une manière de se protéger d'une invasion d'un blocus de la Chine et d'être défendu par les États-Unis. Qui ont donc besoin de ces puces électroniques.
Les explications de Justine Leblond pour France Culture. La menace d'une occupation totale à Gaza, de plus en plus agitée par Israël. Le cabinet de sécurité israélien doit discuter en effet cet après-midi de la fin ou de la suite plutôt de l'offensive dans la bande de Gaza. On est désormais loin du cessez-le-feu envisagé il y a quelques semaines. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou veut une occupation totale du territoire palestinien. Moreno à Jérusalem.
Israël a aujourd'hui le contrôle de 75% du territoire de la bande de Gaza. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou veut aller encore plus loin. Plusieurs ministres vont donc se réunir en fin de journée pour discuter d'un plan, une nouvelle phase de l'opération. qui pourrait s'étendre sur 5 mois et mobiliser 5 divisions de l'armée. C'est ce qu'ont indiqué des sources gouvernementales à plusieurs médias israéliens. L'objectif, occuper de nouvelles zones, notamment l'intégralité de la ville de Gaza, ce qui implique un important déplacement de population, puisqu'environ 1 million de Gazaouis se trouvent toujours dans ce secteur. C'est la moitié de la population totale du territoire. Cette nouvelle phase de l'offensive viserait donc à les pousser toujours plus vers le sud de l'enclave. Un plan qui ne convainc pas une grande partie de la population israélienne, inquiète pour la sécurité des otages toujours retenus dans la bande de Gaza et face à l'épuisement des troupes au sol. Même le chef d'état-major des armées, Eyal Zamir, considère qu'une telle opération serait une erreur et mettrait en danger les otages. Mais le Premier ministre ne semble pas décidé à en tenir compte. Les discussions pourraient durer plusieurs heures et s'étendre jusque tard dans la nuit.
Alice Moreno à Jérusalem pour France Culture. Londres annonce avoir arrêté les premiers migrants sous le coup du traité franco-britannique. On vous en parlait sur France Culture. Un accord entré en vigueur aujourd'hui. Il prévoit le retour en France de migrants arrivés en Angleterre sur de petites embarcations en échange de l'envoi outre-Manche de migrants se trouvant en France. Les 600 salariés de Naf-Naf, placés en redressement judiciaire un an après sa reprise, attendaient la réponse avec angoisse. Eh bien, elle vient de tomber. L'enseigne de prêt-à-porter est partiellement reprise par le groupe Beaumanoir, le groupe qui détient notamment Carole, Cash Cash, Morgane ou encore Sarenza. Valentin Gris, bonjour.
Bonjour Lou.
Une reprise qui laisse un goût amer chez les salariés parce que Beaumanoir ne veut sauvegarder que 55 emplois chez Naf-Naf et à la fois, le groupe est en bonne santé financière.
Oui, Naf-Naf comptait encore près de 600 salariés, vous l'avez dit, le groupe avait accumulé 475 points de vente, c'était à la fin des années 2000. Aurélie Flizard est secrétaire générale adjointe à la Fédération des services de la CFDT. Elle rappelle que le syndicat ultra-majoritaire à Naf-Naf avait émis un avis négatif sur les 2 offres de reprise déposées.
On savait très bien que c'était 2 offres ou liquidation. Et en fait, parmi ces 3 propositions, il n'y en a aucune qui était convenable pour les salariés. Et on savait que dans tous les cas, ça allait générer une grosse casse sociale.
L'autre offre, c'était celle du groupe Amonis, qui avait été jugé trop fragile par le tribunal du commerce. Et pour cause, Amonis déployait encore un PSE l'année dernière pour Pinky, autre marque en difficulté. Beaumanoir l'a donc emporté, même si les jurés pointent le caractère liquidatif de cette offre. La marque va disparaître. 12 magasins seulement seront repris et transformés, les autres fermés. Le groupe veut reclasser 250 salariés dans d'autres enseignes, mais les employés, majoritairement des femmes, ne sont pas très emballés, souligne Aurélie Flizard.
Elles n'ont pas envie aussi parce que nous, on sait que socialement parlant, le groupe Beaumanoir, ce n'est pas le plus vertueux. Elles n'ont pas non plus la garantie de pouvoir travailler à proximité, ne serait-ce que de leur lieu de travail actuel ou de leur domicile.
Alors, seule éclaircie, la robustesse financière de Beaumanoir, le groupe a promis de faire passer son chiffre d'affaires de 2 à 3 milliards d'euros dans les années à venir. Et il s'est diversifié à coups de rachat, vous l'avez dit, Carole, Bonobo, Cash Cash, La Halle, Sarenza. Et enfin, il dispose de liquidités. Il a réalisé 100 millions d'euros de bénéfices l'année dernière.
Valentin Gris pour France Culture. Quel avenir pour la loi du plomb ? Réponse à partir de 18h. Le Conseil constitutionnel rendra son verdict. Les sages doivent dire si cette loi est conforme ou non à la Constitution. Elle prévoit notamment la réintroduction d'un pesticide nocif pour la biodiversité, mais très demandé par certains agriculteurs pour protéger leur culture. Des sages qui ont été saisis par des parlementaires de gauche. Parmi eux, Sandrine Rousseau, députée écologiste de Paris.
J'espère que le Conseil constitutionnel fera valoir le préambule de la Constitution et son principe de précaution, parce qu'il s'agit véritablement de cela. Et là, alors, le Conseil constitutionnel prendrait une décision tout à fait historique. Après, je n'en attends pas grand-chose, parce que vous savez que le président du Conseil constitutionnel est Ferrand, qui lui-même est extrêmement favorable à une agriculture intensive et industrielle. Mais j'espère que, au fondement du droit, au nom du principe de précaution, il y aura une décision contre cette loi.
Si vous êtes chez Bouygues Télécom, vous avez peut-être reçu un SMS ce matin vous disant de faire attention. Le groupe a été victime d'une cyberattaque provoquant la fuite de données de plus de 6 millions de clients. Parmi les données volées, il y a notamment des IBAN, mais pas de numéro de carte bleue. Les clients concernés pourraient être victimes de tentatives de fraude et recevoir des mails ou appels frauduleux. Alors, faites attention. Et puis, il était connu pour avoir révolutionné la musique latino. Le génie de la salsa est Hadi Palmieri, 88 ans, est décédé hier aux États-Unis. Il était devenu le premier artiste latino à remporter un Grammy Awards. C'était en 1975 pour son album The Son of Latin Music. On termine ce journal par un mot de météo. Du soleil sur toute la France cet après-midi et des températures qui grimpent. Il fera 21 à 25 sur les côtes de la Manche, près de la Méditerranée, 28 à 31 degrés. Et sur le reste du pays, on attend 30 à 35, jusqu'à 38 même dans le sud-ouest. C'est la fin de ce journal. Il a été réalisé avec l'aide de Julien Loquet, à la technique Ludovic Auger.